Les voyageurs continuèrent au trot, et tandis que le soleil descendait à l'ouest vers les coteaux blancs à l'horizon, ils arrivèrent à Belle-Eau, près de son grand étang. Et c'est alors que vint le premier choc vraiment douloureux. C'était le pays de Frodo et de Sam, et ils surent à ce moment que cet endroit leur était plus cher que tout autre au monde. Nombre de maisons qu'ils connaissaient avaient disparu. Certaines semblaient avoir été brûlées. Les vieux trous de hobbits, joliment alignés dans le talus du côté nord de l'étang, étaient à l'abandon, et leur petit jardin qui égayait autrefois la rive était envahi par les mauvaises herbes. Pire, il y avait une rangée entière de ces affreuses nouvelles constructions tout le long du bord de l'eau où la route de Hobbitville passait près du rivage. Il y avait eu là une avenue d'arbres. Aucun n'y était plus. Enfin, suivant la route des yeux en direction de Cul-de-sac, ils furent consternés de voir au loin une haute cheminée de briques. Elle déversait une fumée noire dans l'air du soir. Sam était hors de lui.
« Je file tout droit, monsieur Frodo !» s'écria-t-il. « Je m'en vais voir ce qui se passe. Je veux trouver mon ancêtre. »«
Il faudrait d'abord savoir ce qui nous attend, Sam, » dit Merry. « Je suppose que le chef aura une armée de bandits à portée de main. On ferait mieux de trouver quelqu'un qui pourra nous dire à quoi nous en tenir. »
Mais au village de Belle-Eau, toutes les maisons et tous les trous étaient fermés, et personne ne vint les accueillir. Ils s'en étonnèrent, mais ils ne tardèrent pas à découvrir pourquoi. Parvenus au Dragon Vert, la dernière maison du côté de Hobbitville, à présent vide derrière ses fenêtres cassées, ils eurent la mauvaise surprise de voir une demi-douzaine d'hommes de forte carrure, au visage disgracié, paresseusement appuyés contre le mur de l'auberge. Ils avaient le teint cireux et ils louchaient.
« Comme cet ami de Bill Foujard à Brie, » dit Sam.
« Comme beaucoup d'autres que j'ai vus à Isengard, » murmura Merry.
Les bandits avaient des gourdins à la main et des cors à la ceinture, mais ils n'avaient aucune autre arme à première vue. À l'arrivée des voyageurs sur leur poney, ils s'éloignèrent du mur et se mirent en travers de la route.
« Où c'est que vous croyez aller ?»
dit l'un, le plus gros et le plus menaçant de la bande.
« Pour vous, la route va pas plus loin. Et où sont ces messieurs les connétables ?»«
Ils sont en bonne voie, » dit Merry. « Un peu mal aux pieds, peut-être. Nous avons promis de les attendre ici. »
« Bah, qu'est-ce que je disais ?» lança le bandit à ses camarades. « J'avais bien dit à Charquin qu'on pouvait pas se fier à ces petits idiots. Il aurait fallu envoyer de nos gars. »
« Et quelle différence cela aurait-il fait, je vous prie ?» répliqua Merry. « On n'a pas l'habitude des bandits de grand chemin dans ce pays, mais on sait comment s'en occuper. »«
Bandits de grand chemin, hein ?» répondit l'homme. « C'est ce ton-là que vous prenez. Eh bien, changez-en, ou on le changera pour vous. Vous poussez un peu loin, vous autres petits chenapans. Fiez-vous pas trop à la bonté du patron. Charquin vient d'arriver, et il va faire ce que Charquin lui demande. »«
Et que demande-t-il donc ?» dit posément Frodo.
« Ce pays a besoin d'être réveillé et ramené à la règle, » dit le bandit. « Et Charquin va s'en occuper. Et il va pas être tendre si vous le provoquez. Il vous faut un plus grand patron. Et vous en aurez un avant la fin de l'année, si vous faites encore des problèmes. Puis, vous apprendrez une ou deux choses, sale petit rat. »«
Sans aucun doute. Je suis content que vous me fassiez part de vos plans, » dit Frodo. « Je m'en vais rendre visite à Monsieur Loto, et il se peut qu'il l'intéresse aussi. »
Le bandit se mit à rire.
Loto, vous en faites pas, il est parfaitement au courant. Il va faire ce que Charquin lui demande, parce que si un patron fait des problèmes, il peut être remplacé, compris? Et si des petites gens veulent s'inviter où ils sont pas les bienvenus, on peut les mettre hors d'état de nuire, comprenez?
Oui, je comprends, dit Frodo. Je comprends surtout que vous retardez, vous ne semblez pas au fait. Il s'est passé bien des choses depuis que vous avez quitté le sud. Vos jours sont terminés, et ceux de tous les autres bandits. La tour sombre est tombée, et il y a un roi au Gondor. Et Isengard a été détruit, et votre cher maître est réduit à mendier dans les terres sauvages. Je l'ai passé en venant. Ce sont les messagers du roi qui monteront le chemin vert désormais, non plus des grosses brutes d'Isengard.
L'homme le dévisagea en souriant.
« Mendier dans les terres sauvages. Ah, vraiment. Plastronné, plastronné, petit freluquet. mais ça nous empêchera pas de vivre dans ce petit pays bien gras où vous paraissez depuis trop longtemps. Et puis,
il claqua des doigts au visage de Frodo,
les messagers du roi, voilà pour eux. Quand j'en verrai un, j'aviserai, peut-être.
C'en était trop pour Pipin. Il se rappela le chant de Cormalen. Et voici qu'une fripouille aux yeux louches traitait le porteur de l'anneau de petit freluquet. Il rejeta sa cape en arrière, tira l'épée en un éclair, et l'argent et noir du Gondor étincelèrent sur son vêtement comme il s'avançait sur sa monture.
« Je suis un messager du roi, » dit-il. « Vous parlez à l'un de ses amis, l'un des plus renommés dans toutes les terres de l'Ouest. Vous êtes un bandit et un sot. À genoux sur la chaussée et demandez pardon ou je vous plante ce fléau de troll en pleine chair. »
La lame étincela dans le soleil couchant. Merry et Sam dégainèrent à leur tour et vinrent prêter leur appui à Pipin. Mais Frodo ne bougea pas. Les bandits reculèrent. Faire peur aux paysans du pays de Brie et brutaliser des hobbits hébétés, voilà ce à quoi ils s'employaient. Des hobbits intrépides aux traits sévères et aux épées brillantes les surprenaient beaucoup. Et il y avait dans la voix de ces nouveaux venus une note qu'ils ne connaissaient pas. Elle les emplit d'une peur glaciale.
« Allez-vous-en !» dit Merry. « Si vous troublez encore ce village, vous le regretterez !»
Les trois hobbits s'avancèrent encore. Alors les bandits tournèrent les talons et s'enfuirent sur la route de Hobbitville. Mais tout en courant, ils firent résonner leur corps.
« Eh bien, nous ne sommes pas revenus trop tôt !» dit Merry.
« Pas un jour trop tôt, peut-être trop tard, du moins pour sauver Lotho, » dit Frodo. « Le pauvre idiot, mais je le plains !»
« Sauver Lotho ? Mais que veux-tu dire ?»
demanda Pipin.
« Le démolir plutôt !»«
Je crois que tu n'as pas bien compris, Pipin, » répondit Frodo. « Lotho n'a jamais voulu qu'on en vienne à cette extrémité. Il s'est comporté en sombre imbécile, mais le voilà pris au piège. Les bandits ont pris le dessus. Ils recueillent, volent, brutalisent, et ils mènent ou détruisent toutes choses à leur guise en son nom. En son nom, mais même plus pour très longtemps. » Il est prisonnier à cul-de-sac, je dirais, et il a très peur. Il faudra bien essayer de le secourir.
« Eh bien, on aura tout vu !» dit Pipin. « Je me suis toujours demandé comment notre voyage finirait, mais jamais je n'aurais pensé à cela. Devoir se battre contre des semi-orques et des bandits au cœur même du comté pour sauver Lotho les boutons !»«
Se battre ?» dit Frodo. « Enfin, je suppose que les choses peuvent en arriver là. Mais rappelez-vous, aucun hobbit ne doit être tué, pas même ceux qui sont passés dans l'autre camp. Je veux dire vraiment passés dans l'autre camp, pas seulement forcés de se plier aux ordres des bandits parce qu'ils ont peur. Aucun hobbit n'en a jamais tué un autre à dessein dans le comté, et on ne va pas commencer maintenant. Et personne ne doit être tué s'il y a moyen de l'éviter. Gardez votre calme et retenez votre bras jusqu'au dernier moment possible.
« Mais s'il y a un grand nombre de ces bandits,
objecta Merry,
il faudra certainement nous battre. » Tu ne sauveras pas Lotho ni le comté, rien qu'en étant choqué et triste, mon cher Frodo.
Non, renchérit Pipin. Il ne sera pas aussi facile de leur faire peur une deuxième fois. On les a eus par surprise. Tu as entendu leur corps? De toute évidence, il y a d'autres bandits dans les environs. Ils seront beaucoup plus hardis quand ils se seront rassemblés. Il faudrait penser à nous mettre à couvert quelque part pour la nuit. Après tout, nous sommes seulement quatre, même si nous sommes armés.
J'ai une idée, dit Sam. « Allons voir le vieux Tom Casbonne sur le chemin sud. Ça a toujours été un brave type, et ces gars sont tous des amis à moi. »«
Non, » dit Merry, « ça ne sert à rien de se mettre à couvert. C'est exactement ce que les gens ont fait, et exactement ce qui convient à ces bandits. Ils vont simplement venir en force, nous acculer, puis nous faire sortir ou nous brûler à l'intérieur. Non, il faut faire quelque chose immédiatement. »«
Faire quoi ?» demanda Pipin.
« Soulever le comté. » dit Merry. Maintenant, réveillez tous nos gens. Ils détestent tout cela, on le voit bien. Tous, sauf peut-être un ou deux vauriens et quelques imbéciles qui veulent se sentir importants, mais qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe en réalité. Mais les gens du comté sont si habitués au confort et depuis si longtemps qu'ils ne savent pas quoi faire. Il leur faut rien qu'une étincelle, cependant, pour les enflammer. Les hommes du chef doivent bien le savoir. Ils vont essayer de nous piétiner pour éteindre les flammes au plus vite. Nous avons très peu de temps pour agir. Sam, tu peux faire un crochet par la ferme de Casbonne si tu veux. C'est la personne la plus importante du coin et la plus énergique. Allons,
je vais sonner du cor du Rohan et leur donner une musique comme ils n'en ont jamais entendu. »
Ils revinrent jusqu'au centre du village. Puis Sam partit au galop le long du chemin qui descendait au sud jusque chez Casbonne. Il n'était pas allé bien loin qu'il entendit soudain le clair appel d'un cor montant dans le ciel. Son cri retentit loin par-delà les collines et les champs. Et cet appel était si impérieux que Sam lui-même fut tenté de rebrousser chemin. Son poney hennit et se cabra.
« Hue, mon gars, hue !» cria-t-il. « On va revenir bien vite !»
Alors il entendit Mary changer de note et la sonnerie du pays de Bouc s'éleva, secouant l'air.
« Debout, debout, alerte au feu, aux ennemis, debout, au feu, aux ennemis, debout !»
Derrière lui, Sam entendit un brouhaha de voix et une grande confusion de bruit et de claquements de portes. Devant lui, des lumières surgirent dans le crépuscule. Des chiens aboyaient, des pas accouraient. Avant d'arriver au bout du chemin, il vit le fermier Casbonne se hâter vers lui avec trois de ses garçons, Tom le jeune, Jolly et Nick. Ils brandissaient chacun une hache et lui barraient la route.
« Non, c'est pas un de ces bandits !» entendit-il dire le fermier. « C'est un hobbit d'après la taille, mais tout bizarrement habillé. Hey » »« Hé !» cria-t-il. « Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que tout sera fut ?»«
C'est Sam, Sam Gamgee. Je suis revenu. »
Le fermier Casbonne s'approcha et le dévisagea dans la pénombre.
« Eh bien » s'exclama-t-il. « Ta voix me revient, et ta figure est pas pire qu'avant, Sam. Mais je t'aurais pas reconnu sur la rue dans cet accoutrement. Tu t'es trimballé à l'étranger, on dirait. Tout le monde te croyait mort. »
« Pour ça, non, » dit Sam. « Monsieur Frodo non plus, il est ici avec ses amis. Et c'est ça, le raffut. Il soulève le comté, on se débarrasse de ses bandits et puis de leur chef. On vient de commencer. »«
Bon, bon !» s'écria le fermier Casbonne. « Enfin, ça y est !» Depuis le début de l'année que ça me démange de faire du grabuge, mais les gens voulaient rien savoir. Et puis à la patronne et Rosie, à qui penser? Ces bandits reculent devant rien, mais là, allons-y les gars, Bello est debout, faut être de la partie.
Et Madame Casbonne et Rosie, dit Sam, c'est encore risqué pour elle de rester toute seule.
Mon Nibs est avec elle. Mais tu peux aller lui donner un coup de main si t'as envie,
dit le fermier Casbonne avec un grand sourire. Puis, lui et ses fils s'enfuirent en courant vers le village. Sam s'élança vers la maison. Près de la grande porte ronde, au haut de l'escalier qui montait de la vaste cour, se tenaient Madame Casbonne et Rosie, et Nibs montait la garde devant elle avec une fourche à foin.
« C'est moi !»
leur cria Sam, arrivant au trot.
« Sam Gamgee, alors essaie pas de me piquer, Nibs. De toute façon, j'ai une chemise de maille sur le dos. »
Il sauta à bas de son poney et grimpa les marches. Ils le dévisagèrent en silence.
« Bonsoir, Madame Casbonne, » dit-il. « Salut, Rosie. »«
Salut, Sam, »
dit Rosie.
« Où étais-tu passé? Les gens disaient que tu étais mort. Mais je t'attends depuis le printemps. Tu ne t'es pas trop dépêché, hein ?»«
Peut-être pas, »
répondit Sam penaud.
« Mais là, je suis obligé. On va attaquer les bandits et il faut que j'aille retrouver Monsieur Frodo. » « Mais je me disais que je viendrais voir comment va Madame Casbonne, et toi aussi, Rosie. »«
Très bien, merci, »
dit Madame Casbonne.
« Du moins, s'il n'y avait pas tous ces coquins de bandits. »«
Eh bien, vas-y donc, »
dit Rosie.
« Si tu veilles sur Monsieur Frodo depuis tout ce temps, pourquoi que tu le laisses tout seul sitôt que ça devient dangereux ?»
C'en était trop pour Sam. Il lui faudrait une semaine pour répondre ou s'abstenir. Il se détourna et monta sur son poney. Mais comme il allait repartir, Rosie descendit les marches en courant.
« Je te trouve très bien, Sam, » dit-elle. « Vas-y maintenant, mais prends soin de toi et reviens aussitôt que tu auras réglé leur compte à ces bandits. »